J'allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Le débat est, paraît-il, une passion française. C'est en tout cas un élément essentiel d'une démocratie vivante et bien portante. Dans un système représentatif comme le nôtre, son incarnation la plus puissante est l'Assemblée nationale, où il est de tradition que débat et foire d'empoigne se confondent. Mais quel espace est donné au débat direct, au débat citoyen? Les concertations menées à l'échelle locale, qu'il s'agisse de villages, d'agglomérations ou de métropoles, sont souvent critiqués pour le peu de décisions laissées au collectif. Pour le dire plus simplement, il s'agit plus souvent de choisir la couleur du lampadaire que de se concerter sur l'utilité du lampadaire. L'envie est pourtant bien présente, en témoigne le succès du grand débat national lancé par Emmanuel Macron en 2019 en plein mouvement des Gilets jaunes. 10 000 réunions organisées partout en France, 16 000 cahiers de doléances ouverts et près de 2 millions de contributions recensées sur le site. Tant de moyens dispensés pour si peu, pour ne pas dire rien, tant de frustrations créées. Alors comment faire émerger à nouveau cette possibilité d'une agora à l'échelle d'une ville, d'un pays ou d'une association sans être directement tributaire du politique qui semble définitivement ne pas y trouver son compte? Grâce à l'intelligence artificielle, peut-être. Au LIRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, des chercheurs travaillent depuis plusieurs années sur une plateforme de débat basée sur une technologie utilisant, entre autres, le traitement automatique du langage. Depuis 2016, ils se sont associés au LIRDEF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation, pour que cette plateforme soit mise à disposition d'élèves de collèges et de lycées, avec pour objectif de développer leurs compétences argumentatives et leur esprit critique. Ce projet, appelé d'abord AREN, puis AREN DIA, s'achèvera l'année prochaine, en 2025. Parallèlement, cette plateforme de débat a également été mise à disposition de collectivités et d'associations pour accompagner le débat. Alors, comment se présente cette plateforme? Comment fonctionne cette technologie de traitement automatique du langage? Que vient faire l'IA dans tout ça? Et bien sûr, quelle est la plus-value de cette IA dans l'émergence de nouvelles agora? On en parle avec notre invité Mathieu Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur au LIRM et donc coporteur de ce projet à Rennes avec Manuel Bachtold du LIRDEF qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui mais qu'on salue. Vous avez donc, vous, développé la plateforme et les technologies qui lui sont liées, c'est bien ça?
Tout à fait.
On va en parler pendant les 20 prochaines minutes. Alors, pas de reportage aujourd'hui, mais notre invité de dernière minute sera Benoît Ildefonse, directeur du laboratoire Géosciences, qui nous présentera Voyage en Géosciences, une table ronde organisée par l'OREM et Géosciences sur le thème de la planète habitable aux ressources minérales critiques. C'est à la Panacée le 12 novembre prochain. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Je vous ai pas regardé pendant mon lancement, j'ai pas dit trop de bêtises?
Non, c'était très bien.
Bon, super. Alors, on l'a dit en introduction, donc le projet AREN, il a été lancé en 2016, puis AREN DIA prend la suite en 2022. Les deux projets étaient portés conjointement avec le LIRDEF, donc un laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse? Comment est-ce qu'un laboratoire d'informatique et un laboratoire de didactique se rencontrent sur un projet?
Alors, l'idée, c'est... Alors déjà, les deux laboratoires font partie de la même université, de l'Université de Montpellier.
C'est vrai.
Et l'idée, c'est d'un côté, il y avait un besoin au niveau éducation, alors je ne vais pas m'étendre trop parce que ce n'est pas mon domaine, mais de faire développer l'esprit critique et les capacités argumentatives des élèves. Ça, c'est un projet général dans l'air du temps depuis pas mal d'années. Et d'autre part, suite entre autres au grand débat national, l'idée était de dire comment on pourrait faire débattre des grands nombres de personnes, alors plusieurs milliers, sur des périodes de temps un peu étendues, plusieurs semaines, mois, voire années. Et l'idée, c'était que forcément, il fallait avoir une plateforme informatique qui puisse gérer cela. Et sans doute, un peu d'intelligence artificielle pour aider à gérer ce type de débat.
Alors, au-delà de cette rencontre, le projet AREN, il sort donc des classes et cette plateforme, elle est aussi utilisée par d'autres publics, des collectivités, des associations, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de débats qui ont eu lieu par ce biais?
Alors, en général, ce sont des débats sur des considérations sociétales et en particulier technico-sociétales. Donc, par exemple, il y a eu des débats sur faut-il sortir du nucléaire ou pas, voitures autonomes, les nanotechnologies, ce genre de choses. Il y a eu des débats plus sociétaux ou économico-sociétaux sur, par exemple, monnaie locale, ce genre de choses. En général, c'est des débats qui sont liés aux thématiques des associations dans la société civile, puisque c'est eux les acteurs de ce genre de réflexion.
Alors, c'est des débats qui rassemblent combien de personnes en général? Par exemple, le plus grand nombre de personnes qui ont eu à débattre en même temps sur Arène,
alors,
vous avez une idée?
Le plus grand nombre, autant que je sache, c'est à peu près une cinquantaine de personnes. Mais dans tout ce genre d'activité, il y a un nombre de personnes actives qui est assez réduite. Et en général, à peu près 10%, 10%, peut-être 20%. Et puis après, il y a des personnes qui sont là et qui interviennent très peu. Et un grand nombre de personnes qui viennent sur la plateforme et qui regardent et qui lisent, mais qui n'interviennent pas.
Alors, pour que les auditeurs comprennent concrètement de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne du côté utilisateur? À quoi ça ressemble, cette plateforme?
Alors, c'est une plateforme sur le web, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder via un navigateur web tout à fait classique. Et quand vous arrivez, en général, donc, il y a un texte, une amorce, donc, qui, en rapport avec le sujet du débat. Ça, c'est plutôt dans la partie gauche de l'interface. Alors, ce texte peut être masqué une fois qu'on l'a lu et qu'on le connaît bien.
Et ça va être une petite question ou ça va être...
Alors, ça peut être un texte tout à fait élaboré. Alors, on ne va pas mettre plusieurs dizaines de pages, hein, mais ça va être, mettons, une page de texte ou une demi-page. Alors, ça peut se résumer à une question de type question de sujet bac philo, hein, ça peut être ça. Et donc, sur la partie droite de l'interface, il y aura l'affichage des différentes interventions des débattants. Et le principe, c'est que pour intervenir, on va sélectionner un segment de texte, alors soit dans le texte d'origine, soit parmi les arguments des débattants. Et on va, en général, on est invité à le reformuler pour se forcer à bien comprendre ce qui a été dit et pas de réagir de manière un peu impulsive. Et après, on peut mettre son propre argument, alors qui peut être soit de dire qu'on est pour, contre, de demander un développement, de dire qu'on n'a pas compris, rajouter des choses. Voilà, donc l'argument est tout à fait libre.
Et comment j'arrive à me repérer? Mettons que je prenne le débat en cours et qu'il y a déjà une dizaine de personnes qui débattent depuis quelques jours. Comment je me repère?
Alors, l'idée, c'est que l'ensemble des arguments sont organisés sous forme hiérarchique, un peu comme ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Il y a des réponses aux réponses, etc. Il peut y avoir éventuellement par endroit des points de synthèse. Et il y a aussi des interfaces, enfin des représentation graphique sous forme d'arbre pour se promener dans l'ensemble des arguments en sachant qui a intervenu, etc. Parce qu'on peut vouloir lire les arguments, mais on peut aussi être intéressé par les arguments de telle ou telle personne, etc. etc. Donc on essaye effectivement de fournir une interface aussi agréable que possible pour se repérer dans le débat.
Alors cette plateforme, elle contient une technologie de traitement automatique du langage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Oui, tout à fait. Alors, le traitement automatique du langage, alors souvent on dit du langage naturel pour faire attention par rapport au langage de programmation, donc c'est bien le langage naturel, le français, l'anglais. L'idée, c'est que on va, par informatique, par programme, analyser un texte et le but ultime, c'est souvent la compréhension du texte. Alors, les applications sont très diverses. Ça peut être faire du résumé automatique, faire de la traduction et surtout faire de l'extraction d'informations et de art concept ou relations sémantiques entre les éléments de ce qui est dit dans le texte qui est donné. Alors, comment ça marche? Alors, il y a plein de manières de le faire, mais en gros, il y a une analyse morphologique, c'est-à-dire analyser les termes isolément.
Si c'est un verbe, un sujet.
Un verbe, ouais, voilà, et éventuellement avec de l'ambiguïté. Alors, par exemple, le mot couvent, c'est aussi couve pour les poules, ça s'écrit pareil, mais, et donc le système va devoir dire, ah ben, ça peut être soit le verbe, soit le nom. Et ensuite, il y a une analyse syntaxique, c'est-à-dire qu'on va repérer les relations, en particulier relations sujet vers verbe, ou l'objet vers le verbe, complément. Vous savez, le fameux complément d'objet direct, ce genre de choses. Alors là, ça permet d'éliminer un certain nombre d'ambiguïtés de l'étape précédente. Par exemple, si je dis les poules du couvent couvent, eh ben, les deux couvents couvent, on va repérer que le premier, c'est le nom, et que le couve, à la fin, c'est bien le verbe. Alors, je vous rappelle qu'à l'écrit, c'est totalement identique. Évidemment, à l'oral, ça marche moins bien. Et puis après, il y a une analyse, en général, sémantique. Alors, par exemple, si je dis « je mange avec mon avocat », eh ben, l'analyse sémantique va voir que il s'agit de manger avec quelqu'un, et que quand on mange avec un avocat et que c'est quelqu'un, eh ben, c'est l'avocat, la personne, et je ne mange pas avec mon avocat le fruit, légume.
Alors on va détailler comment ça fonctionne tout ça. Cette analyse textuelle, elle s'appuie sur un réseau lexico-sémantique que vous avez développé précédemment, il y a quelques années déjà, qui s'appelle jeu de mots. Donc quand on regarde le descriptif jeu de mots, c'est un vrai jeu, un serious game. Quand on regarde un peu le descriptif, il est question de nœuds de graphes, d'arcs sémantiques. Ça n'a pas l'air tout à fait simple. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre?
Voilà, alors... La base de connaissances jeu de mots, c'est donc une base qui contient des connaissances et sous la forme d'un graphe. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont des nœuds. Alors, pour faire simple, ces nœuds sont des termes. Et ces nœuds sont reliés entre eux par des relations dites sémantiques. Alors, il y a une relation associative, toute bête, A est associé, par exemple, Astérix associé à Obélix. Mais on peut avoir une relation de type le chat a comme partie une queue ou a comme partie des poils, etc., etc. Donc, la structure de données de cet objet qui est la base de connaissances, c'est effectivement un graphe ou un réseau. Mais par ailleurs, il y a un jeu. Voilà. Alors le jeu sert à alimenter cette base. Disons que ça, c'était le point de départ. Et des joueurs vont avoir une consigne. Par exemple, quelles sont les parties du chat? Et vont répondre à cette consigne et vont gagner des points par croisement de leurs réponses avec les réponses d'un autre joueur qui aura eu la même partie. Et là où ça devient amusant, c'est qu'on a d'autant plus de points qu'on a de mots en commun, donc il faut penser comme un autre joueur, mais il faut que les réponses soient originales pour gagner beaucoup de points. Si c'est des réponses qui sont tout à fait communes, que tout le monde a indiquées, on ne gagnera rien. Même
parce
les mots,
que le but est de nourrir la machine, voilà, entre guillemets, c'est ça.
Exactement. Voilà. Donc il y a une double contrainte, contradictoire. Et donc, du coup, il faut développer des stratégies pour... Alors, en plus, c'est en temps limité. Alors, on peut rajouter du temps, etc. Il y a un certain nombre de fonctionnalités dans le jeu. Mais l'idée est de savoir ce que les gens pensent. Et alors, pourquoi on fait ça? C'est pour alimenter la base. Et pourquoi on croise? C'est pour éviter de mettre trop de bêtises. Alors, les bêtises ne sont pas forcément des bêtises volontaires des joueurs. Hein, mais par exemple, ils peuvent se tromper en tapant et ce genre de choses. Donc, ça fait un petit filtrage. Voilà.
Alors, cette ambiguïté lexicale que vous avez évoquée tout à l'heure, le fait de savoir si le couvent est le couvent ou l'avocat est l'avocat, comment est-ce que vous faites pour la lever? Vous avez parlé, dans votre système, dans votre public, vous parlez d'un système qui s'appelle Bellérophon. C'est ça? C'est à ça que ça sert?
C'est exactement ça. Alors, Bellérophon, on lui donne un ensemble de termes qui, en général, est issu d'un texte. Donc, il y a déjà eu l'étape d'analyse, vous savez, morphologique, etc. Et en fait, de ce terme, on va rajouter pour chaque terme tous les différents sens qu'il a, alors qui sont issus de la base de jeu de mots, de la base de connaissances, et on va en faire un graphe. C'est-à-dire que toutes les relations qui existent dans la base de connaissances vont être ajoutées dans ce graphe. Donc là, on a un graphe, mais qui est juste restreint à l'ensemble des termes de départ. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, on va avoir quelque chose. Alors, la métaphore, c'est de faire passer du courant. Et le courant va plus ou moins passer entre les termes par rapport aux relations et selon le niveau d'activation ou d'inhibition des termes. Parce qu'il peut y avoir des relations de type inhibition. Et ainsi, certains des sens vont s'allumer en fonction du contexte. Donc, si je dis « hier, j'ai mangé avec mon avocat », eh bien, comme ça va repérer qu'il y a avec et manger avec, etc., eh bien, ça va être la personne. Mais si je dis hier, j'ai mangé mon avocat, eh bien, ça sera sans doute pas la personne.
J'aime beaucoup cet exemple. Il fait rire.
Oui, pardon. Alors, j'étais sur l'avocat aussi. Alors, à l'inverse, il y a des termes différents qui ont un sens identique. Et ça, vous le notez aussi avec ce que vous appelez l'enrichissement sémantique. À quoi ça sert de faire ça également?
Alors, l'enrichissement sémantique, l'idée, c'est quand alors on est dans une tâche qu'on appelle en général l'indexation, c'est-à-dire pour un objet quelconque, ici c'est du texte, on a envie de repérer, de donner un maximum de termes, tels que quand on va aller rechercher des éléments textuels, on les retrouve par ces termes. Et donc l'enrichissement sémantique consiste à donner un ensemble de termes qui sont associés aux termes de départ. Alors en particulier, si il y a plusieurs, il y a de l'homonymie ou etc. ou pour dire de la synonymie. Voilà. C'est-à-dire que si vous cherchez un texte qui parle de Matou et que vous mettez le mot clé chat, vous n'allez pas le retrouver puisque il n'y a pas chat dans le texte qui parle de Matou. Mais si on a indexé ce texte et qu'on a mis à côté de Matou, on a mis chat, Ramina Grobis, etc., on a un peu élargi, on a enrichi, eh ben on va retrouver des textes qui ne comportent pas le mot que vous avez donné, mais un mot qui est ou synonyme ou sémantiquement proche.
Alors, sur votre, enfin, dans votre plateforme, on trouve également IDFX, qui est une surcouche du réseau Jeux de mots. On en a des couches. Alors là, il s'agit d'un réseau de neurones que vous appelez réseau de neurones discret et qui va sélectionner les concepts pertinents à partir des commentaires donc ajoutés par les participants. Vous parlez de méthode abductive. Comment vous pouvez nous expliquer ça simplement ?
Alors, ce réseau, c'est effectivement un réseau de neurones. Alors, en fait, le réseau de jeux de mots est lui-même un réseau de neurones. On peut le considérer tel quel. Mais vous vous rappelez qu'à un terme, on va associer un ensemble de termes, soit via les jeux, soit des IA qui font des raisonnements, etc. Là, l'idée, c'est d'associer deux ensembles de termes. Par exemple, si vous partez de vent, tempête, tuile, cassé, dommage, eh ben, vous voulez peut-être associer l'ensemble de termes de assurance, assurance tempête, dédommagement, réparation, etc. Voilà. Et comment faire pour associer deux ensembles ? Eh ben, l'idée, c'est de mettre un nœud entre les deux ensembles qui va faire, en gros, la colle, qui va faire la glue. Donc, l'ensemble des termes de départ vont être associés de manière entrante à ce nœud et l'ensemble des termes d'arrivée vont être associés de manière sortante à ce nœud. Et ce nœud, alors de manière tout à fait métaphorique, ne nous trompons pas, on l'appelle neurone. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que à partir de ce deuxième graphe, qui est une surcouche du graphe de jeu de mots, eh bien, on peut faire un raisonnement double, un raisonnement qui est sémantiquement associé par rapport au terme, c'est-à-dire ça c'est la couche du bas, celle de jeu de mots, et une autre qui est alors abductive, c'est-à-dire sont des associations telles qu'on nous les a indiquées, donc qui viennent par exemple des débattants. Alors on ne sait pas forcément quelle est la relation sémantique entre ces termes de la deuxième couche, mais ce qu'on retient, c'est alors c'est un peu comme le chien de Pavlov, vous voyez, c'est on a un truc, on a un réflexe, c'est-à-dire on nous donne un terme, on nous a dit ah cet autre terme est associé. Le fait qu'il soit discret, c'est que les neurones sont des objets individuels. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, puisque le réseau de neurones apprend par rapport aux propos des débattants, eh bien, ce réseau de neurones grandit. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux neurones qui sont construits. Éventuellement, il y a des neurones qui sont abandonnés, qui sont détruits. Mais la plupart du temps, c'est qui y construit. Voilà. C'est pas comme les réseaux de neurones dont on entend beaucoup parler dans, vous savez, les IA génératives, où l'architecture du réseau est prévue à la base. C'est-à-dire l'apprentissage consiste à faire varier les poids. Là, il y a de nouveaux neurones qui se construisent. Voilà.
Alors, toutes ces couches, est-ce qu'au final, elles vous permettent d'extraire des connaissances de tout ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les connaissances... Alors, on extrait des connaissances qui sont connues, bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais parfois, on arrive à faire des corrélations, si vous voulez, entre des termes qui, a priori, n'étaient pas connus. Alors, soit n'était pas connu de la base de connaissances, et nous on le connaissait, on se disait « Ah, bon, très bien », soit carrément peuvent ne pas être connus de nous, et ça peut nous donner des indices intéressants, alors soit pour effectuer des recherches dans un certain sens. Alors parfois, l'IA fait des associations, alors parfois des réactions enfantines. Alors avec le temps qui passe de moins en moins, alors je vous donne un exemple, c'est à cause de ces corrélations, l'IA... Alors, nous demande de vérifier, si elle nous pose la question, est-ce que, par exemple, un générique de fin, c'était la même chose qu'un médicament palliatif ?
Ah, c'est
et oui,
mal.
Parce qu'elle a fait le raisonnement, générique et la fin, la mort, etc. Alors, bien sûr, on lui a dit que non, mais on a trouvé que c'était pas mal comme association, comme question, que peut-être un enfant aurait pu poser en écoutant vaguement les nouvelles, etc. Donc, voilà, l'IA peut faire des choses comme ça. Après, au niveau, par exemple, médical... L'idée, c'est de détecter des signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui arrivent dans une grande masse de données, qui arrivent peu fréquemment, mais plus qu'une fois, et qui peuvent être d'intérêt. Alors, au niveau médical, parmi les signaux faibles, il y avait le fait qu'il y avait des personnes qui étaient traitées à la lutéine, et qui, par ailleurs, quand ils avaient le Covid, on s'était aperçu que leur acuité visuelle avait augmenté. Mais donc, c'était très rare, parce que les personnes qui, à la fois, étaient traitées... Alors, déjà, traitées à l'utéine, c'est rare, mais en plus, qu'avec le Covid, c'est encore plus rare. Et après, il fallait s'en apercevoir qu'ils avaient l'acuité visuelle augmentée. Mais quand on a ce genre de phénomène qui est détecté, ça peut être intéressant pour démarrer de nouvelles recherches scientifiques, peut-être pour trouver des médicaments d'amélioration de l'acuité visuelle.
Alors, vous venez un peu de répondre à ma question, même complètement, mais c'est très bien. Donc si on devait de manière très simple dire quelle est la plus-value de l'IA dans un débat, finalement c'est ça, c'est la détection du signal faible.
C'est la détection du signal faible. Ça détecte aussi les signaux forts, mais c'est moins intéressant parce qu'en général, ceux-là, on les connaît.
Et alors du coup, tout ça, vous l'avez testé, vous, en conditions réelles, sur un débat que vous avez évoqué tout à l'heure qui portait sur la monnaie locale. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a fonctionné? Est-ce que le débat était plus structuré? Est-ce que vous avez détecté des signaux que vous n'auriez pas détectés autrement?
Alors tout à fait, ça fonctionnait à deux niveaux. D'abord, le fait d'avoir ces IA et ces histoires de mots-clés, etc., ça permettait au débat d'être plus animé, c'est-à-dire ça relançait l'intérêt par rapport aux gens. Donc du coup, il y avait plus de matière dans le débat. Et en plus, l'IA a appris un certain nombre de choses. Et il est peut-être possible que dans ce cas-là, l'IA ait appris des choses qu'on ne savait pas avant. Voilà. Sur les rapports entre, par exemple, les effets d'une monnaie locale et l'économie locale, effets positifs, quelques effets peut-être négatifs, comment on peut ou non détourner les monnaies locales de leur usage et ce qu'il faut faire pour l'empêcher, ce genre de choses.
Et est-ce que l'IA influence le débat? Est-ce qu'elle crée des biais?
Alors, l'IA influence certainement le débat de par la nature de l'interaction entre l'IA et les débattants. La question de savoir si elle crée des biais, et en particulier des biais négatifs, n'est pas évidente. Alors, on ne fait pas d'IA débattante. Elle ne débat pas, elle analyse simplement les propos et demande aux gens de préciser les propos, etc., si besoin est. Donc, on pense que le biais, parce qu'il y a un biais et une influence, est plutôt positif. Voilà. L'idée, c'est que aussi, ça relance l'intérêt auprès des débattants du débat. Donc, de ce point de vue-là, on pense que c'est positif. Mais il est tout à fait certain que si on commence à faire des débats qui sont des IA, pardon, qui sont débattantes, qui vont débattre comme les autres, et non pas que modérateurs, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il est possible qu'il y ait des biais, et il est possible que l'IA biaise négativement le débat. Donc, c'est pour ça que là, il faut être très attentif et précautionneux.
Alors, il nous reste 2-3 questions, on va accélérer un petit peu. Très rapidement, alors, dans son application en classe, dans son application pédagogique à cette plateforme, vous n'avez pas utilisé l'IA. Pourquoi?
Alors, l'idée, c'était qu'on a constaté que la prise en main de l'outil, qui pourtant, à notre sens, est assez simple et ergonomique, et le fait de débattre, le fait d'avoir des arguments et de penser aux arguments et de les écrire, ça les écrit, était déjà une charge mentale très importante auprès des élèves, et le fait d'avoir en plus le fait d'avoir des mots-clés à vérifier, pas vérifier, etc., et d'interagir avec une IA, eh bien, allait être trop. Voilà la raison.
Alors, il y a quand même eu, depuis 2022, plus de 80 débats dans 20 classes différentes, donc notamment des classes montpelliéraines, avec donc un intérêt pédagogique donc, qu'on vient d'évoquer. Il y a un intérêt aussi pour vous, c'est que vous avez récupéré le déroulé écrit de tous ces débats, et vous vous en servez donc pour entraîner votre IA, c'est ça?
Totalement, c'est exactement ça. Et l'IA apprend depuis ce qui est dit. Alors, apprend et aussi, un point important, apprend à détecter des relations fausses et mémoriser comme étant fausses aussi. Parce que notre IA a aussi dans les informations des informations fausses. Genre typiquement, une autruche qui ne vole pas, pour nous, c'est une autruche qui vole, mais avec un poids négatif. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu bizarre.
Alors, à la fin de votre publication, vous évoquez aussi la possibilité d'intégrer une IA générative sur votre plateforme. Elle servira à quoi en complément?
Alors, pour nous, l'idée, c'est qu'une telle IA servirait d'aide à la modération ou à l'explicitation, par exemple, des propos s'ils ne sont pas clairs ou ressentis comme pas clairs. Alors, l'idée étant que c'est plus sympa si l'IA écrit de manière textuelle à partir des informations qui ont été déterminées par les processus que j'ai précisés précédemment, mais d'écrire, par exemple, votre propos veut-il dire plutôt ça, ou votre propos n'est pas clair car il y a une ambiguïté à ce moment-là, est-ce que vous pourriez clarifier? Donc l'écrire de manière rédigée, et donc l'utilisation d'une IA générative servirait essentiellement à ça. A priori, et je le répète, l'IA générative ne sera pas utilisée pour être une débattante et biaiser le débat entre humains en intervenant.
Alors, pour terminer, lors d'un précédent entretien, vous m'avez affirmé que le développement de l'IA était versé au livre. L'expression m'a fait rire juste parce que je ne la comprends pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
L'idée, c'est que l'ensemble des codes informatiques du projet ARENH et ARENDIA, d'une part, et d'autre part, les données de la base de connaissances jeux de mots et IDFIX, donc les réseaux de neurones, sont tout à fait libres d'accès, ils sont en fait en domaine public et tout le monde peut les récupérer pour en faire ce qu'il veut, les vendre ou faire une autre application, d'autres projets, etc. etc.
Et donc, quelqu'un
sans rien payer.
Si une association là veut lancer un débat en utilisant votre plateforme?
Il peut tout à fait. Alors, il y a deux moyens. Le moyen le plus facile, c'est qu'il va sur la plateforme, il lance le débat. Okay. Mais si vraiment il veut récupérer et installer sur un ordinateur la plateforme de débat, il peut le faire tout à fait librement et sans rien nous demander. Hein. C'est disponible, sur, vous savez, sur GitHub et Git. Et voilà.
On mettra des liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup Mathieu Lafourcade.
Merci à vous.
C'était très clair et très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Et j'accueille maintenant mon invité des trois dernières minutes, Benoît Ildefonse, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes directeur du laboratoire Géosciences Montpellier et vous nous parlez aujourd'hui d'une journée scientifique portée par l'OREM, l'Observatoire de Recherche Montpellierain sur l'Environnement, qui se tiendra le 12 novembre à la Panacée, et qui s'intitule « Voyage en géosciences de la planète habitable aux ressources minérales critiques ». Alors la matinée est réservée à la communauté scientifique, mais dès 14h, une table ronde sera ouverte au grand public. Alors Benoît Ildefonse, pour commencer, quel est le thème de cette table ronde ?
Alors le thème de cette table ronde sera « Ressources minérales et transition écologique, réconcilier énergie et environnement ». On va y aborder, en tout cas essayer d'y aborder des sujets assez cruciaux autour de l'exploitation minière, de la protection de l'environnement et des enjeux de transition énergétique.
Alors pourquoi il vous a semblé particulièrement important de mettre en avant cette question-là, la conciliation de l'activité minière et de la protection de l'environnement ?
L'activité minière, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias actuellement, hein, c'est un sujet d'actualité, et parce que les minéraux et les métaux sont partout. Je prends juste un exemple, dans le téléphone portable que je suis en train d'utiliser pour répondre à votre interview, par exemple, il y a plus de 50 différents métaux qui rentrent dans la composition de ce téléphone. Et ces métaux, il faut bien les extraire quelque part. En l'occurrence, ils sont plus extraits en France. Aujourd'hui, il n'y a plus de mines en France. Et donc, on les extrait dans d'autres pays. Donc, ça pose tout un tas de problèmes. Et ces problèmes, on peut les aborder de différentes manières, soit par le biais du géologue ou le point de vue du géologue qui va travailler sur la ressource, mais aussi par le biais du sociologue qui va travailler sur l'impact de ça sur les sociétés, par le biais des scientifiques plutôt qui travaillent sur l'environnement et qui vont regarder plutôt l'impact environnemental de ces choses-là. Et en fait, quand on regarde ça un petit peu en détail, on s'aperçoit qu'on fait face souvent à des conflits de valeurs entre le besoin d'avoir ces minéraux, ces métaux, par exemple, mon téléphone portable, je ne l'aurais pas si on n'avait pas ces plus de 50 métaux dedans, et puis la manière dont ces ressources sont exploitées et d'où elles viennent. Et souvent, les gens disent, bah oui, c'est important, mais alors pas dans mon jardin. Il y a une expression en anglais qu'on dit souvent, c'est not in my backyard, et effectivement, on a fait face à ce problème-là. Or, c'est important, parce que j'évoque le téléphone, mais dans le cadre de la transition énergétique, aujourd'hui, il est important de transiter vers des moyens énergétiques différents pour la société, les sociétés du futur. Ça ne peut pas se faire sans un certain nombre de ressources minérales qui sont absolument essentielles pour mettre en place ces nouvelles énergies.
Alors justement, pour traiter ce sujet, vous avez composé une jolie table ronde avec plusieurs expertes et experts donc qui viendront aborder ce sujet. Il y a bien sûr des spécialistes des ressources minérales. D'abord, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Il y en a deux, je crois.
Alors, il y aura Bénédicte Sainqui, qui est dans mon laboratoire, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier, donc au laboratoire Géosciences Montpellier. Et Bénédicte est spécialisée sur les ressources minérales et les minéraux critiques. Elle pilote actuellement un projet ANR sur le sujet. Et notamment, elle introduira le débat sur la table ronde en rappelant un certain nombre de concepts importants, et notamment ce qu'on appelle les minéraux critiques.
Okay,
et puis un deuxième géologue qui est Olivier Vidal, qui est un collègue qui est directeur de recherche au CNRS, qui nous vient de Grenoble et qui est spécialiste des ressources minérales dans le contexte de la transition énergétique. Et vu d'un point de vue assez macroscopique à l'échelle globale, Olivier a fait de la modélisation, il a écrit des bouquins là-dessus. Et donc il apportera ce point de vue justement de l'importance de la ressource minérale dans le contexte de la transition énergétique.
Alors les sciences humaines, elles sont également présentées autour de cette table. Vous aurez deux sociologues qui vous viennent de Toulouse et de l'IMT Minalès, c'est ça ?
Absolument, comme je disais tout à l'heure, on fait face sur ce genre de débat à des vrais conflits de valeurs, donc il est important d'avoir des points de vue de spécialités différentes. Et donc ces deux collègues sont Sylvia Becerra à Toulouse, elle est chargée de recherche au CNRS, elle est sociologue des risques et de l'environnement, elle a beaucoup travaillé sur des projets en relation avec les pollutions minières ou autres. Et Juliette Cerceau, qui est maître de conférence à l'école des mines d'Alès, est membre du laboratoire Hydrosciences Montpellier et aussi sociologue, et elle est spécialisée dans l'analyse des trajectoires des territoires miniers et post-miniers.
Alors, et on termine très rapidement. Donc, il reste également une hydrologue et un spécialiste de la biodiversité des sols, qui est une dimension assez importante, en effet, la biodiversité des sols, j'imagine.
Et oui, absolument. Et donc, l'hydrologue, c'est Corinne Casio, qui est directrice de recherche au CNRS, à Hydrosciences Montpellier, et qui traite de l'impact environnemental des métaux et de la pollution sur la ressource en eau. Et Jérôme Cortet, qui est professeur en biologie, écologie et environnement à l'Université Paul Valéry à Montpellier, qui fait partie du laboratoire CEF et qui est spécialisé dans la biodiversité des sols et donc de l'impact aussi de la pollution minière sur ce genre de sur cette biodiversité.
Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais cette conférence, elle s'intègre dans un contexte plus général qui est l'année des géosciences. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ?
Oui, deux mots rapidement. Cette année des géosciences a été décidée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et donc est mise en avant sur l'année académique et poussée aussi par notre tutelle CNRS et axée sur la formation et la médiation scientifique. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées tout au long de l'année par notre laboratoire et par l'OSU, l'Observatoire OREM. Avec des actions en classe, par exemple, on va aller faire des conférences dans un certain nombre de classes, à l'école, au collège, etc., et un certain nombre d'actions de médiation scientifique, dont cette fameuse table ronde lors de la journée de l'OREM du 12 novembre.
Ok, donc on rappelle, c'est à la Panacée le mardi 12 novembre, c'est ouvert à tous et toutes gratuitement à partir de 14h, la matinée est réservée aux scientifiques. On peut également suivre l'événement en ligne sur le site de l'OREM, toutes les liens et les informations seront notés sur la page de l'émission, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup Benoît Ildefonse.
Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
À très bientôt dans Allume la Science.
Ok.
Allume la Science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.